RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Allez, bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis consacrée au football ce matin à quelques semaines de la Coupe du Monde au Qatar. On va voir en quoi le foot peut être vecteur d'éducation populaire. Le foot et bien sûr le sport. En général, vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages. Si vous avez été membre d'un club de foot quand vous étiez un peu plus jeune, est-ce que c'était une sorte d'école de la vie pour vous, où on vous a appris des valeurs citoyennes, peut-être sociales aussi? Si vos enfants, petits-enfants font partie d'un club, est-ce que vous avez l'impression que ça les change? Et plus généralement, pensez-vous que le sport peut être vecteur d'éducation et de citoyenneté? On vous attend, comme d'habitude, au 04 72 38 2023 avec Catherine au standard, vos messages par mail à direct@rcf.fr et dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et on continuera d'agir à 10h55 avec notre chroniqueuse Stéphanie Gallet qui, comme chaque jeudi dans l'opération Jeudi Photo, décryptera une photo choisie par le CCFD Terre Solidaire. Et ça nous permet de poser un regard sur le monde pour saisir les défis auxquels sont confrontées certaines populations à travers la planète. Pour nous parler de sport et de foot jusqu'à 11h, on a le plaisir d'accueillir deux invités. Bonjour Mathieu Pradel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RCF et dans Je pense donc j'agis. Vous êtes le directeur d'une association qui s'appelle Tatane, qui a été lancée au printemps 2011. Pourquoi Tatane comme nom d'association?
Eh ben Tatane, c'est la godasse. C'était pour symboliser la chaussure avec laquelle on va taper la balle avec ses potes dans son quartier, dans sa campagne. Oui. Voilà, c'était pour symboliser cette image
Tatane,
de la godasse.
Tatane, c'est un mouvement collectif et populaire, ça a son importance. Vous dites pour un football durable et joyeux, qu'est-ce que vous entendez par ça?
Par durable, c'est l'idée que le foot perdure et existe surtout à travers la base, à travers la passion, plus qu'à travers l'élite. Et tout à l'heure... J'écoutais l'émission un petit peu quand j'étais dans le métro.
Oui.
Et si on prend l'image un peu non vertueuse d'un système pyramidal pour décrire le football, la base existera même si le sommet disparaît et pas l'inverse en fait. Et donc l'idée de durable, c'est l'idée de faire perdurer la passion, de faire perdurer cet amour qui peut y avoir pour ce sport et cette chose un peu irrationnelle qu'il y a autour du foot. Et joyeux, c'est pour mettre en avant une pratique plus ludique, de remettre le jeu au centre, puisque je crois que vos invités l'ont bien décrit en première partie. Le foot, c'est un spectacle télévisé, c'est du divertissement, c'est du business. Nous, ce qu'on essaye de montrer à travers Tatane, c'est que c'est un jeu. C'est un jeu et que donc on peut prendre plaisir avec ce jeu.
Et vous faites beaucoup de choses dans cette association, on va avoir le temps d'en parler jusqu'à 11h. Bonjour Robin Perdriol.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RCF. Vous êtes le directeur de l'association Un Ballon pour l'insertion. Alors là aussi, vous faites énormément de choses. Vous proposez beaucoup d'actions. Une association à destination notamment des personnes en difficulté, des personnes en situation de précarité.
Oui, tout à fait. Alors nous, le cœur de notre action, c'est d'utiliser le sport comme un véritable outil de remobilisation pour les personnes en grande précarité. Donc en grande précarité, c'est très large. On va travailler aussi bien avec des jeunes mineurs isolés, avec des personnes en situation de rue, avec des personnes en situation de handicap, en situation d'addiction. Donc vraiment sur un public très large, avec une vraie volonté derrière de montrer que le sport est un formidable outil pour se remettre en mouvement, pour reprendre confiance en soi, pour créer un groupe, un collectif et effectivement avoir une notion de plaisir. Et puis le sport dans son ensemble et surtout le foot est vraiment un langage universel. Il n'y a pas besoin de savoir parler français, il n'y a même pas besoin de savoir jouer au foot puisqu'en fait on peut pratiquer différentes formes de foot ou différentes formes d'activités sportives. Donc c'est vraiment complètement universel et fédérateur. Et puis source de motivation et de confiance en soi.
Le foot, Aubin, dans votre vie, d'un point de vue peut-être un peu plus personnel, est-ce que vous êtes un grand passionné de football?
Alors, un grand pratiquant de foot, j'ai fait 20 ans de foot à titre personnel.
Ah, quand même, 20 ans, ouais.
Oui. Dans un petit club, puisque moi je suis du sud-ouest, d'à côté d'Albi, donc dans un petit club de foot à Pugouzon, très familial, avec vraiment ce côté, on joue pour la compétition, mais c'est avant tout pour le plaisir, pour la troisième mi-temps qu'on peut rapprocher du rugby, mais qui est aussi présente dans le foot, et où vraiment tout le monde se connaît, il y a cet effet rencontre-partage, et presque au-delà de juste un club, on devenait une famille. Et c'est ça qui était très important et très moteur. Dans ma pratique du foot.
Et par curiosité, est-ce que vous allez suivre la Coupe du Monde du Qatar ?
Alors, c'est un débat un peu compliqué avec toute une envie, parce qu'effectivement, c'est la Coupe du Monde, c'est le foot, et ça donne envie d'être suivi. Et en même temps, effectivement, tout un tas d'images derrière qui sont véhiculées avec des actions et des mises en place qui sont un peu contradictoires aux valeurs que nous on essaie de transporter et de véhiculer à travers l'image du sport en général et du foot. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cet esprit de contradiction. Donc,
et je crois que c'est des débats au cœur des Français hein, en ce moment, à quelques semaines de cette Coupe du Monde. Mathieu Pradel, vous n'êtes pas hors jeu, je vais vous poser également la même question. Le foot dans votre vie ?
Alors justement, pour moi, le foot, c'est plus un sport que j'ai pratiqué en loisir. J'ai fait du basket en compétition, mais le foot, pour moi, c'est le sport de la cour de récréation, le sport en vacances avec les cousins, c'est le sport avec les potes. Et voilà, c'est aussi je suis préparateur physique de métier, donc c'est aussi un sport dans lequel je suis intervenu en tant que préparateur physique. Et moi aussi, je suis du sud-ouest, donc je suis un supporter du Toulouse Football Club, qui est notre club local.
Si on entre un peu plus dans l'association Tatane, enfin ce mouvement hein, qui a été créé en 2011, vous dénoncez d'une certaine manière le foot tenu par les élites, et vous, votre conviction, Mathieu, c'est que le foot, bah, c'est le peuple, comme dit Benzema au Ballon d'Or, hein, c'est le Ballon d'Or du peuple. Pour vous, le foot, bah, ça vient aussi de celles et ceux qui, dans les villes, dans les cités, dans les campagnes, se retrouvent entre potes en fin de journée pour aller jouer au foot.
Oui, exactement. L'idée de Tatane aussi, c'était de se réapproprier le foot. Et je rebondis sur la question que vous posiez sur la Coupe du Monde. Moi aussi, je vais regarder cette Coupe du Monde parce que je pense qu'on ne doit pas considérer que le football appartient à ce microcosme du foot business et du foot divertissement, du foot de haut niveau. On avait pour ça fait quelques soirées assez drôles, notamment au 104 à Paris, où on diffusait des matchs en direct et on faisait intervenir des humoristes ou des artistes ou même juste des gens qui avaient envie de prendre la parole pour commenter le match. Et donc là, l'idée, encore une fois, c'était de se dire que peut-être que le football n'appartient pas qu'aux chaînes de télévision. Voilà. Après Tatane, on essaye quand même de s'inscrire plutôt dans une démarche positive et pas être trop dans une confrontation frontale. Je veux dire, on aime le foot. Hier soir, j'ai regardé la Ligue des Champions parce que ça reste le foot de haut niveau et ça nous plaît quand même.
Ouais, c'était quel match hier ?
Hier, j'ai regardé l'OM contre Francfort.
Ouais, et c'est 2-1, je crois, hein, pour Francfort.
C'est ça.
Ouais. Vous savez, je suis un petit peu aussi, hein. Enfin, grâce aux infos surtout. Mathieu Pradel, pourtant le foot ne fait pas vraiment partie de ma vie, mais ça reste important d'en parler à quelques semaines de la Coupe du Monde au Qatar. Vous continuez de nous appeler, bien sûr, au 04 72 38 20 23. Si vous avez été membre d'un petit club de foot, eh ben, venez nous raconter cette petite histoire, et si ça vous a changé, si c'était une sorte d'école de la vie où vous avez appris des valeurs citoyennes et sociales, 04 72, 38, 20, 23. Tatane, ce mouvement, il a été créé, on va dire qu'il est parti plutôt d'un manifeste hein, coécrit par plusieurs personnes, et notamment l'ancien joueur Vikash Dorasso, Mathieu Pradel. Est-ce que vous pourriez nous raconter cette histoire ?
Oui, c'est un groupe de potes hein, au départ, donc je ne fais pas partie des fondateurs, mais je fais partie de ce groupe d'amis. Il y a Vikash Dorasso qui sort du coup d'une carrière, d'une magnifique carrière, mais je pense que Vikash avait aussi des questions vis-à-vis de son sport, vis-à-vis du milieu professionnel dans lequel il avait évolué. Brieux Ferraud fait partie aussi des fondateurs. Il est aujourd'hui directeur du développement du groupe SoPress. Et donc, c'est un des tauliers du magazine SoFoot. Et Pierre Valfiz, qui à l'époque était dirigé la boîte de prod de Vikash, qui s'appelait Trompe le Monde, je crois. Et donc, lui venait plutôt du milieu de la culture. Et donc, notre idée, c'était vraiment de... On se posait des questions sur le foot et c'était l'époque où le foot, un peu comme aujourd'hui, montrait une image de lui-même assez exécrable avec l'équipe de France en Afrique du Sud. Et ils ont écrit ce papier, je pense, ce manifeste un soir d'apéro, je pense, et ils nous l'ont lu et ça a créé ce mouvement tatane qui est devenu après un collectif. Et voilà, une coopérative d'idées, une association. Bon, on a eu pas mal de manières de se nommer.
Pour vous, Aubin Perdriol, et pour l'association Un Ballon pour l'Insertion, ce n'est pas uniquement le foot, hein, on va dire, qui tourne dans l'association. C'est le sport en général. C'est né aussi, bah, je crois en 2011, en tout cas, à partir d'une Coupe du Monde qui avait été organisée, des personnes sans abri.
Oui, tout à fait. Chaque année est organisée dans le monde de la Homeless World Cup, qui est une instance qu'on peut rapprocher un petit peu de la FIFA sur le fonctionnement.
Ouais.
Et du coup, alors si on revient un petit peu avant, dès le début des années 2000, Benoît Dano, qui est le fondateur de l'association, avait créé un collectif qui s'appelait le collectif Remise en Jeu et qui proposait une activité foot aux personnes sans abri chaque semaine. Le constat était de dire que ils se sont retrouvés face à des personnes qui préféraient aller à l'entraînement de foot, quitte à ne pas avoir de place en centre d'hébergement, donc à dormir à la rue, plutôt que l'inverse. Donc le foot avait une vraie importance. Et puis, ils se sont rassemblés en collectif pour organiser cette Coupe du Monde à Paris en 2011, sur le Champ de Mars. Donc là, c'est 64 équipes, 53 pays. Là aussi, une partie compétition féminine et masculine. Et durant une quinzaine de jours, ils ont pu jouer sur le Champ de Mars, rencontrer des footballeurs professionnels aussi, donc avoir ce mélange. Et puisque le parrain de cet événement était Arsène Wenger à l'époque, suivi de près avec Emmanuel Petit notamment et d'autres grandes stars. Mmh. Et puis un peu ce rêve qui devenait accessible pour des personnes qui dormaient à la rue, qui un matin se sont réveillées à Clairefontaine, dans la chambre peut-être de Zidane, peut-être de Vikash Dorasso, peut-être de Lizarazu, etc. Et du coup, vraiment plein de paillettes, mais en même temps, un vrai message véhiculé. Montrer que ce n'est pas parce que nous sommes des personnes à la rue que nous ne valons rien et que nous ne pouvons rien faire.
Donc ça, c'est vraiment la genèse hein, de l'association.
C'est la genèse de l'association en 2011, la partie sportive, toute une partie réflexion aussi, avec un colloque organisé au Collège des Bernardins à Paris pour réfléchir autour du sport et de la précarité. Et du coup, en 2014, l'association Un Ballon pour l'Insertion a pris son nom et a été créée en association d'héritage de cet événement sportif.
Mmh. Un ballon, oui. Allez-y. Pardon, je vous ai coupé la parole, je crois.
Non, j'allais ajouter que du coup, pour faire suite à ce que vous disiez, que donc le foot est le point d'entrée, parce qu'effectivement, nous, on a un public qui est très foot. Mais c'est aussi de faire découvrir qu'il y a d'autres pratiques, d'autres manières de pratiquer le foot aussi, et puis d'autres disciplines sportives, et que le sport au sens large peut être fait de diverses manières, qu'il y a d'autres pratiques, et pas seulement ce rêve et cette image de se dire, pour beaucoup, nous on a de plus en plus de jeunes migrants qui arrivent en France en se disant « je vais faire carrière dans le foot en France ».
C'est aussi simple que ça.
Qui est très illusoire, et par contre de découvrir qu'il y a d'autres pratiques sportives avec des possibilités aussi pour celles-là.
Donc finalement, vous utilisez le sport véritablement comme outil de remobilisation pour ces personnes qui sont en situation de précarité.
Tout à fait. C'est vraiment un outil de remobilisation. Nous, on organise des séjours socio-sportifs du lundi au samedi pour des associations sociales d'Île-de-France. On a un planning qui est très très dense puisqu'on va démarrer à 6h45 le matin avec un footing et être en activité jusqu'à 21h30, 22h pour des personnes donc, qui sont en grande difficulté physique, mentale, et puis social au sens large. Et du coup, c'est vraiment de se remettre en mouvement dans un cadre très bienveillant, créer un esprit d'équipe qui est aussi une des bases du foot, mais une des bases du sport en général. Et puis s'accepter comme je suis à l'instant où je le suis, sans se dire « je veux être le meilleur ».
Mathieu Pradel, le cœur du mouvement Tatane, de l'association Tatane, c'est ce que vous avez appelé l'école de foot pour tous, hein, pour tous. Et quand je dis pour tous, c'est aussi pour toutes. Et ça, ça a son importance. C'est mixte, à la fois pour les filles et bien sûr pour les garçons qui, c'est plus connu, aiment un peu plus le foot que les filles.
Oui, c'est ça. Ce qu'on a appelé l'école de foot, c'était un petit peu l'ensemble de nos projets de terrain. Et donc effectivement, on s'adresse aujourd'hui principalement à des jeunes des quartiers politiques de la ville. À travers des dispositifs où on va se servir de l'attractivité du foot, soit pour amener la jeunesse à pratiquer un foot ludique et ensemble, donc ça va être des créneaux libres dans les gymnases où effectivement filles, garçons, jeunes, moins jeunes, bons joueurs, moins bons joueurs sont invités à venir jouer ensemble au foot. Et là, on a un peu un petit concept de nos règles Tatane. On joue avec des règles spéciales et on invente des règles. On a aussi des dispositifs, un petit peu comme l'exemple d'Aubin et son association, où là, on va se servir du foot pour découvrir d'autres pratiques artistiques, culturelles ou scientifiques. Donc ça va être des ateliers numériques où on va programmer des robots sportifs, ça va être des cours d'éducation à l'image à travers les Coupes du Monde, à travers l'histoire des Coupes du Monde. Voilà, on va utiliser vraiment le prisme du foot pour amener les jeunes à découvrir autre chose. Et peut-être si je dois donner un dernier exemple, puisqu'on fait des choses assez éclectiques, on a longtemps, donc avant le Covid, et j'ai le plaisir d'annoncer que cela va être relancé, on organise des tournois de baby-foot dans les résidences seniors et dans les maisons de retraite, où on fait venir un centre de loisirs du coin, et les personnes âgées et les jeunes jouent en binôme toute une après-midi au baby. Voilà, on fait ça dans tous les arrondissements de Paris avec le centre d'action sociale de la ville de Paris et avec une finale parisienne. Voilà, donc on va pouvoir relancer ce projet. Mais globalement, on essaye de faire plein de choses autour du foot et d'utiliser l'attractivité et la passion qu'il peut y avoir pour ce sport, pour des projets, liens sociaux, plaisir et pédagogie.
Et la place des filles dans ce projet, c'est vrai qu'en France, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit coup de projecteur sur le football féminin depuis la Coupe du Monde féminine de football de 2019. On se souvient de l'engagement d'Amandine Henry, à l'époque qui était capitaine de l'équipe de France féminine. Maintenant, c'est Wendy Renard. Est-ce que vous avez le sentiment, Mathieu Pradel, que les filles s'intéressent de plus en plus au football, en tout cas à travers l'association Tatane, bien sûr?
Alors, oui, clairement, les filles s'intéressent de plus en plus au football. On le voit d'ailleurs, donc là, je parle en dehors de Tatane, mais oui. On voit qu'effectivement, le foot féminin se développe et qu'il y a de plus en plus de jeunes filles aujourd'hui qui pratiquent le foot. Nous, on le constate aussi de manière assez irrégulière, puisqu'on a des dispositifs, comme je le répète, où c'est vraiment du créneau libre. Donc, certains jours, il y a beaucoup de filles, certains jours, il y a moins de filles. Mais... notre idée, c'est surtout que même si les filles sont minoritaires sur nos activités, puisque c'est quand même le cas, on veut qu'une fille qui participe à nos ateliers se sente légitime et se sente à l'aise. Et je pense que ça, de ce point de vue-là, c'est une réussite. Il arrive régulièrement, c'était le cas hier, qu'il y ait une trentaine de jeunes au gymnase, une dizaine de filles sur les 30 jeunes. Et j'ai pas le sentiment que les filles se sentent exclues. Donc... Il y a ce double enjeu d'aller vers une mixité plus numériquement plus équitable, du 50-50, mais aussi que même si les filles sont minoritaires dans nos ateliers foot, qu'elles se sentent bien.
Et vous, Père Driol, vous avez peut-être aussi un regard là-dessus?
Oui, alors nous, on essaie d'intéresser. Alors, la question à se poser, c'est est-ce que les femmes ou les filles s'intéressent plus au foot? ou est-ce qu'elles ont plus facilement accès au foot qu'à une certaine époque? Ce qui est une vraie question aussi derrière, puisque ça s'est beaucoup démocratisé. Il y a de plus en plus de clubs foot et sport pouvant accueillir ce public-là. Ouais. Donc c'est vraiment une question derrière. Après, nous, sur nos actions, Un Ballon pour l'Insertion, donc nous, on organise des séjours sportifs. On est à environ 800 personnes depuis 2014 qui sont passées sur nos actions. On est à environ 20% de femmes. Mais ce qui correspond aux statistiques, nous, on a un public un peu plus, j'allais dire, restreint, oui et non, puisque les femmes représentent environ 20 à 25% des personnes en situation de précarité en France. Donc on est vraiment sur ces chiffres-là. Après, le vrai enjeu, c'est effectivement de se dire « je suis en capacité de faire, je peux rentrer sur un terrain, même s'il n'y a que des hommes autour, je serai respecté, je serai pris en considération et je vais pouvoir pratiquer comme tout le monde ». Et c'est vraiment, pour moi, cet enjeu le plus important à travailler, de casser cette image, de se dire « je vais pas sur un terrain de foot parce que je suis une femme et que de toute façon, j'ai pas le niveau, je vais pas y arriver.
Le foot, le sport, on en parle jusqu'à 11h ce matin dans Je pense, donc j'agis. On vous présente les actions de deux belles associations. Vous les entendez ce matin, Tatane et Un Ballon pour l'Insertion. Et vous avez la parole pour nous parler du sport. Est-ce que vous pensez que le sport est vraiment vecteur d'éducation, voire de citoyenneté? Et si vous avez été membre d'un club de foot ou de sport quand vous étiez plus jeune ou même peut-être actuellement, est-ce que c'était une école de la vie? On utilise souvent cette expression où vous avez pu apprendre des valeurs citoyennes et sociales. Et même chose si vous avez des enfants et petits-enfants qui sont à fond là-dedans et qui font partie d'un club. On a envie d'entendre ces petites anecdotes au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook. Je pense donc j'agis. On écoute de la musique et pas n'importe qui. Big Flo et Oli en duo, en trio même avec Julien Doré tout de suite.
Ma génération, elle a tout oublié des révisions du bac. Elle veut un dealer, pas trop loin de la fac. Elle a grandi, elle s'en branle du regard des gens. Elle veut un coup d'un soir, mais qui dure deux ans. Elle faisait des tours géantes en capla et le tour du monde sur Encarta. Elle grattait une piscine pour passer le mois d'août. Elle comptait des centimes pour s'acheter une couille de mammouth. Des fois plus de cadeaux, les parents séparés. Elle s'est inscrite à la salle, mais n'y est jamais allée. Le lait, toujours après les chocs à pic. Elle assume pas, mais elle a dansé la tectonique. Défoncée, elle mate les zinzins de l'espace. Elle écrivait des trucs au blanco sur l'ISPAC. High School Musical, Anna Montana, karaoké du lac du Connemara. C'est des ré, des ra, des ré. Personne comprenait, mais tout le monde chantait. Dans son salon, elle a des panneaux de chantier. Elle les collectionne quand elle est bourrée. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans.
C'était mieux avant, remonter le temps. Premier cheveux blanc, j'ai pris un coup de vieux. C'était mieux avant. J'ai connu Zelda, j'ai vu jouer Regine et JJ Okocha. Génération Spleen, Booster au 103. Les années défilent, qui se souviendra?
Ma génération, elle voudrait dormir, elle est épuisée. Réussir ses partiels sans les réviser. Faire la tournée des bars jusqu'à 4h du mat, puis se taper des barres devant Mission Cléopâtre. Encore choquée par Happy Tree Friends, la farine sur le chewing-gum de 2 mètres. Elle a eu des Magix, elle a eu des Pog. Sur le 3310, il y avait Crazy Frog. Big Baby Pop, rêve de Tokyo. Elle buvait un yop devant Code Lyoko. À cause de Tony, elle voulait faire du skate. C'était Picasso quand elle était sur Pain. Déjà nostalgique de l'ancienne époque. Elle voudrait prouver à ses parents qu'ils avaient tort. Elle s'en fout un peu de savoir ce qu'il y a après la mort. Elle débat sur qui était le meilleur Pokémon.
Brûler les fils de son Scooby-Doo. Dans la cuisine avec Adibou. C'était mieux avant. Remonter le temps. Premier cheveux blanc. J'ai pris un coup de vieux. C'était mieux avant. We'll be right back.
Les années défilent sur le podium du spleen.
Pokémon, Titeuf, Beyblade, Diddle. J't'ai cassé comme Brice de Nice. MSN, envoie-moi un whiz.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Big Flo et Oli en trio avec Julien Doré, coup de vieux sur RCF. Mathieu Pradel, vous venez de Toulouse, Big Flo et Oli également. Vous aimez bien ce duo, Big Flo et Oli. Et pour vous, Toulouse, est-ce que c'est une ville de foot ?
Alors, est-ce que Toulouse est une ville de foot ? Bon, déjà, j'aime bien Big Flo et Oli. Hein. Je ne connais pas très très bien leur œuvre, mais oui. C'est plutôt sympa. Toulouse, oui et non, parce que je pense quand même qu'il faut garder, il faut laisser ses lettres de noblesse au Stade Toulousain, qui est quand même qui est quand même le sport régional et le sport de cette ville, donc le rugby. Et derrière le stade, je pense qu'en ce moment, on est dans une belle période, pour le TFC.
Ouais, le Toulouse et Football Club. Hein,
ouais, voilà. Je pense que Toulouse est une belle ville de sport. Donc elle a le foot à sa place à Toulouse, mais il faut, je pense, quand même faire honneur au Stade Toulousain, qui on a la chance d'avoir pour le coup là une équipe de très très haut niveau, ouais. Puisque c'est peut-être ce qui se fait de mieux au niveau européen. Vive le rugby et vive le foot.
Le TFC qui est 10e du championnat en Ligue 1 quand même. Hein. Bon, faut le souligner. C'est ça ?
Dixième avec en plus des... Oui, ouais. J'ai pas le classement exactement, mais surtout de bonnes intentions dans le jeu. Donc ça, je pense que les Toulousains apprécient. De ce que je sais un petit peu de mes potes toulousains, je crois qu'il y a une très bonne ambiance dans les tribunes. Et je crois qu'en ce moment, le stadium fait le plein et qu'il y a... Il y a du monde, du beau jeu, donc il y a une belle dynamique pour le Toulouse Football Club.
Mathieu Pradel, vous êtes le directeur de l'association Tatane, vous êtes accompagné d'Aubin Perdriol, directeur de l'association Un Ballon pour l'Insertion. Bonjour Elisabeth.
Oui, bonjour, voilà. J'avais appelé, j'ai résisté un moment, puis je me suis dit non, je vais leur raconter que j'ai fait partie de l'équipe de foot du lycée du Parc de Lyon pendant 4 ans, voilà, c'est-à-dire de l'âge de 10 ans environ jusqu'à 14 ans, voilà.
Oui, racontez-nous quand même, Elisabeth, n'en restez pas là.
Pardon ?
Racontez-nous un peu cette aventure.
Bah, c'est-à-dire j'étais avec des garçons, parce que autour de moi il y avait des garçons, bon, enfants, si vous voulez, et que le jeudi on se retrouvait ensemble, et quand sont venus les beaux jours, une équipe de foot du lycée du Parc se réunissait à côté de chez eux sur un terrain vague. Donc je suis allée avec eux et ils sont venus vers la mère en disant écoute, on n'en veut pas parce que c'est une fille. Ils n'en veulent pas parce que c'est une fille. Alors elle leur a dit, écoutez, si elle ne joue pas, vous ne jouerez pas. Donc total, on m'a pris quand même. Donc on m'a mis gardien de but. Je me suis dit, oui, ça va être facile. Que dalle, je laissais passer tous les ballons. Donc, on m'a remercié assez vite. Je dis, écoutez, mettez-moi avant. Voilà. Alors, on m'a mis avant gauche. Et là, ça a très bien marché. Je shootais très bien dans le ballon. J'ai appris le partage. J'ai eu l'amour du foot et des autres autour de moi. Je n'oublierai jamais. C'était merveilleux. Voilà. Mmh. Cette période, j'attendais ces jeux. Pour courir avec eux, pour aimer, pour respecter, pour... voilà.
Vous faites encore un peu de foot, vous, Elisabeth, maintenant ?
C'est plus fort que moi. Dès que je vois un quignon de sapin, je fouchoute dedans quand ouais. Je marche. J'ai 86 ans.
Merci beaucoup, Elisabeth. Voilà, de beaux souvenirs. Ça fait plaisir d'en entendre au 04 72 38 20 23. Aubin Perdriol, je trouve ça intéressant quand Elisabeth nous dit qu'elle a 86 ans, hein, l'a dit Elisabeth. Donc, ça remonte à quelques années quand elle était dans un lycée à Lyon. C'était dur de se faire accepter dans une équipe de foot, et on peut le comprendre quand on est une fille, à l'époque en plus. Et maintenant, j'ai l'impression que ça bouge quand même, ça bouge un peu mieux, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Ça bouge effectivement beaucoup mieux, il y a une vraie acceptation, et en tout cas, on ouvre la porte à ce que les femmes puissent pratiquer. Je reviens aussi sur l'âge. Nous, sur nos séjours de remobilisation, on a des personnes, la personne la plus âgée avait justement 86 ans, 20 ans de rue, et a pu pratiquer toutes les activités physiques et sportives. Donc l'âge est effectivement limitant dans certaines choses, mais n'est pas un facteur empêchant la pratique. Mais effectivement, les choses changent, les regards changent, les objectifs aussi, puisque, et c'est vraiment la vocation, que ce soit de Tatane ou d'un ballon pour l'insertion, c'est pas de faire du sport de haut niveau, ouais. C'est de faire du sport plaisir. Mmh. Et du coup, c'est effectivement, je pense, bien plus facile dans ce cadre-là de faire s'intégrer tout un tas de populations, que ce soit les femmes, mais que ce soit les personnes aussi, qui ne savent pas faire de foot, parce que c'est pas évident pour que ce soit un homme ou une femme à 25, 30 ans, qui n'ont jamais fait de foot, mais qui veulent s'essayer, de venir intégrer un club, c'est aussi une sacrée épreuve, puisqu'il n'y a plus d'apprentissage à ce niveau-là dans les clubs de sport. Donc il y a vraiment cet enjeu-là, et c'est en train de changer, et tant mieux, puisqu'en fait on peut pratiquer longtemps, on peut prendre du plaisir longtemps dans les activités sportives, ouais. Et pas se limiter juste à ce que je connais et ce que je sais faire.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et nos deux invités, je le disais il y a un instant, Aubin Perdriol de l'association Un Ballon pour l'Insertion, Mathieu Pradel de l'association Tatane. Vous continuez de nous appeler, tout comme Elisabeth, pour nous raconter vos souvenirs de foot en club, en quoi c'était enrichissant pour vous aussi dans votre vie, sur le plan physique ou sur le plan psychique tout simplement. Est-ce que c'était une école de la vie? 04 72 38 20 23. Vous pouvez également laisser vos témoignages par mail à direct@rcf.fr. Mathieu Pradel, on revient à l'école du foot. Comment elle fonctionne, cette école du foot? Est-ce que vous organisez quelques petites actions par-ci, par-là, une fois par semaine, une fois par mois?
Alors, je vais essayer d'être concis. Oui. Okay. L'école de foot, c'est un ensemble de dispositifs. Donc, si je résume, on est le mercredi à Belleville, toute l'après-midi sur des créneaux loisirs et des créneaux libres où se succèdent des collégiens, des lycéens et des adultes, donc entre 16h et 22h le soir. L'école de foot, c'est aussi un dispositif qu'on appelle l'Académie Tatane, en lien avec le collège Lucie Aubrac, qui est notre voisin à Belleville, où là on a un groupe d'une vingtaine de jeunes, moitié garçons, moitié filles, qui pratiquent le foot sur le modèle d'une section sportive avec accompagnement à la scolarité et foot. Mais là, donc, comme je l'explique depuis le début, l'objectif n'est pas de les amener vers de la compétition, mais plutôt de leur proposer une activité physique football ensemble et pour le plaisir et pour le dépassement de soi, évidemment. L'école de foot, c'est un créneau féminin qui est en train de se lancer, toujours dans le quartier de Belleville. Et l'école de foot, c'est des projets un peu plus sporadiques avec d'autres arrondissements, comme le 19e, le 14e, le 20e arrondissement, où on a régulièrement des ateliers. D'ailleurs, on a quand même, je les salue, un atelier régulier dans le 14e maintenant, tous les mercredis. Donc voilà, l'école de foot, c'est des créneaux libres pour pratiquer le foot. J'oublie les vacances. Oui. Pendant les petites vacances et les grandes vacances. Ouais. Exactement, en ce moment. Donc hier, les jeunes avaient une activité web radio, programmation de robots mardi. Aujourd'hui, je crois qu'on est sur de la création de mini-films et demain de l'impro théâtrale. Donc voilà, les jeunes viennent au gymnase et tous les jours, ils ont une activité qui leur est proposée en lien avec, plus ou moins avec le foot, qu'on crée avec le partenaire, et du jeu, évidemment. Toute l'après-midi, ils jouent au gymnase et on fait ça aussi pendant les grandes vacances. Voilà, on a pas mal de choses, et je vous parlais aussi des matchs de baby avec les anciens, donc des tournois de baby intergénérationnels. Donc c'est vraiment un ensemble de projets de terrain qu'on co-construit avec tout un tas de partenaires associatifs ou jeunesse dans Paris essentiellement, mais on n'est pas fermé à s'exporter en province.
Quand je disais tout à l'heure que vous faisiez beaucoup de choses, je n'ai pas menti. Vous nous le prouvez. Tout pareil pour vous, Aubin Perdriol, et pour l'association Un Ballon pour l'insertion. Peut-être le point d'orgue de l'association au niveau de vos actions, ce sont les séjours. Les séjours que vous organisez souvent d'ailleurs avec des partenaires.
Oui, alors tous nos séjours même sont organisés avec des partenaires puisque l'idée c'est de pouvoir construire un séjour de remobilisation avec une structure sociale qui nous amène et des encadrants de leur structure et des participants, et pendant une semaine on déplace complètement ce regard encadrant, travailleurs sociaux, participants. On est tous sur le même niveau, on a tous un short, un t-shirt et on va faire du sport. Donc effectivement, on est avec des grandes associations parisiennes et d'Île-de-France, Aurore, le Secours catholique, le Secours populaire, etc., pour partir sur ces séjours et que ça profite au mieux à tous nos participants.
Comment fonctionnent ces séjours, justement, si vous pouvez nous immerger un peu?
Oui, alors de plusieurs manières, c'est un travail déjà en amont, puisqu'on rencontre plusieurs fois et la structure partenaire et les participants qui vont venir au séjour. Les participants choisissent eux-mêmes les activités qui seront réalisées pendant le séjour. C'est-à-dire qu'on a une sorte de menu. Et puis, sur un principe démocratique très simple, les activités qui sont le plus sollicitées sont les activités qui seront réalisées pendant le séjour. Donc, pour en citer deux qui reviennent quasiment à chaque fois, ça va être effectivement le foot, l'équitation aussi, qui donne très envie et qui fait beaucoup de bien. On part ensuite en séjour le lundi dans la matinée. En général, la plupart de nos séjours se passent à Houlgate, au centre sportif de Normandie, donc qui est un centre sportif qui accueille tout type de public, mais essentiellement des sportifs. C'est là où chaque année l'équipe de France de judo, par exemple, va faire son stage d'été au centre sportif.
Oui.
Et puis, à partir du mardi, on rentre vraiment dans le dur des activités avec une dizaine de rendez-vous dans la journée, puisqu'on va faire des activités sportives de 2 heures, de 1 heure, on a une activité bien-être yoga, on a des activités socio-culturelles, de visite du patrimoine et d'activités créatives, des temps d'échange et des temps d'animation de soirée. L'objectif, c'est vraiment d'être remis en mouvement, d'être sans cesse en action pour être sollicité, pour se dire « je suis capable de faire des choses, mais surtout je vais les faire ». Et les personnes font la totalité du planning, puisque nous, on n'est pas sur des séjours de vacances. Donc à partir du moment où une personne vient en séjour avec un ballon pour l'insertion, elle s'engage à faire la totalité des activités physiques et sportives qu'on propose.
Est-ce que ces personnes viennent avec des a priori, peut-être ?
Des a priori, oui. Alors il y a deux choses. Elles viennent, un, avec un schéma corporel qui est parfois faussé, c'est-à-dire qu'elles se souviennent de quand elles faisaient du foot ou quand elles couraient il y a 10, 15, 20 ans. Et ben, l'âge avance pour tout le monde, encore plus pour les personnes en situation de grande précarité qui ont fait de la rue, avec, petite parenthèse, l'âge moyen, enfin l'espérance de vie moyenne pour une personne à la rue, c'est 50 ans. Donc c'est juste à remettre en condition que des personnes qui viennent, qui ont 60 ans, qui ont 20 ans de rue, l'état physique dans lequel elles peuvent être, c'est très compliqué. Donc effectivement, il y a cet a priori de se dire, soit j'étais capable de faire, je peux peut-être toujours le faire, et c'est à nous de diminuer, de dire attention, on va y aller en douceur, ou à l'inverse, beaucoup de se dire je suis pas capable de faire tout ça, mais en fait, du moment que c'est bien fait, qu'il y a un effet de groupe qui motive, qui pousse, qui tire vers l'avant, on arrive à faire les choses. Et puis on refait jamais deux fois la même activité sur nos séjours, qui fait qu'effectivement je vais être en difficulté sur telle ou telle activité, je suis peut-être pas très bon en basket, mais quand il s'agira de monter à cheval, eh ben je sais très bien le faire et j'y arrive très bien.
Mathieu Pradel, le nom de cette émission, c'est Je pense donc j'agis, et je trouve que ça pourrait très bien aller à l'association Tatane, parce que autant on a parlé des actions que vous menez, de l'école du foot, de l'académie aussi, hein, que vous avez évoqué tout à l'heure, de toutes les actions que vous organisez sur le temps scolaire ou même sur le temps des vacances en ce moment, mais vous avez aussi tout un volet de l'association autour de la réflexion, autour de la pensée, une forme de think tank, si on devait appeler ça.
Oui, oui, on a écrit 2 livres, un livre qui est autour de, sous forme de BD, qui est autour des règles tatanes et de comment pratiquer le foot autrement, et un second livre qui s'est appelé 50 idées pour changer le foot. En tout cas, c'est sûr que Tatane a toujours eu à cœur de produire aussi des idées, donc c'est des actions et des idées. Et et on a toujours effectivement voulu se placer à l'intérieur d'un triangle sport, culture et social, parce qu'il nous semblait que parfois c'était justement des mondes qui avaient du mal à communiquer entre eux. Donc effectivement, Tatane, c'est aussi réfléchir collectivement, c'est aussi trouver des nouvelles idées. D'ailleurs, j'ai peut-être pas assez mis à l'honneur nos partenaires, mais nous aussi, effectivement, la plupart de nos dispositifs sont co-construits avec les équipes de développement locales, avec les associations locales, avec les structures jeunesse, les centres sociaux, les clubs de prêves. Et oui, on essaye d'attendre d'avoir aussi un certain point de vue sur le foot.
Et qu'est-ce qui en ressort de toutes ces, de tous ces débats, ces conférences, toutes ces réflexions ?
Ben, tout à l'heure, j'ai pris beaucoup de notes quand j'étais dans le métro et je vous écoutais. Mais c'est là encore, c'est difficile de résumer. Mais ce qu'il en ressort, c'est que effectivement le foot est un fait social quasiment inégalable et donc il a les dérives de notre société. Il est très multiforme, c'est très difficile de définir le foot, ça dépend de quoi on parle. En tout cas, ce qu'il en ressort, c'est que le foot, ça intéresse beaucoup de gens, que beaucoup de gens ont un avis sur le foot, que beaucoup de gens aiment débattre sur le foot, et que c'est un outil ou une matière avec laquelle il est très agréable et assez facile de travailler, aussi bien avec des jeunes que, comme vous l'avez fait depuis le début de l'émission, avec des intervenants comme nous qui venons donner notre avis et réfléchir sur la société, sur le foot. Donc voilà, je pense que c'est une des grandes passions humaines, le football.
Vous êtes là pour réfléchir, pour penser, mais pour agir aussi. C'est pour ça qu'on présente vos associations ce matin, à la fois Tatane et puis un ballon pour l'insertion. Aubin Perdriol, ce qui est important aussi de signaler, c'est que finalement, vous ne faites pas d'action sociale dans l'association, en tout cas pas d'accompagnement de ces personnes. Ce sont vraiment des événements, je veux dire, ponctuels pour permettre à ces personnes de reprendre confiance en elles. Mais en aucun cas, vous les accompagnez sur la durée.
Alors, on les accompagne sportivement sur la durée, puisque suite à nos séjours, nous proposons chaque semaine des activités sportives sur un créneau le mardi et des activités de Qigong sur un créneau le jeudi. Donc,
Qigong.
Chaque semaine.
Qu'est-ce que Qigong. C'est ça, le Qigong ?
Où je serai. je veux pas dire de bêtises. L'idée du Qigong, c'est quoi ? C'est de pouvoir proposer une activité qui va se rapprocher un petit peu du tai chi, donc ces pratiques très asiatiques de bien-être. En mouvement et centré sur soi-même, sur la respiration et sur vraiment un état de bien-être recherché à la fin de cette séance. Donc il y a cette continuité-là, mais après, effectivement, nous n'avons pas d'accompagnement social à proprement parler. Nous n'avons pas vocation à trouver un hébergement, à trouver un travail et accompagner les personnes à obtenir leurs papiers. On est vraiment là dans une démarche de remise en mouvement. C'est pour ça qu'on parle de remobilisation. On est là pour se dire, quand on vient au gymnase, pendant 1h30, 2h, on est dans notre bulle où on ne travaille pas, il n'y a pas d'enjeu social derrière. On est là pour prendre du plaisir, on est là pour se rencontrer, on est là pour laisser les valises et les soucis devant la porte. Et on prend du plaisir à se retrouver, on prend du plaisir à échanger entre le jeune de 18 ans et la personne plus âgée de 60-65 ans. Sur un terrain de sport, on est tous ensemble. Peu importe nos soucis, peu importe qui on est, d'où on vient, notre statut social, on est sur un terrain de sport, on est tous à égalité.
C'est un peu naïf de vous demander ça, mais est-ce que ça fonctionne ? Est-ce qu'il y a des résultats ? Est-ce que vous avez des témoignages, des personnes qui ont pu participer, des témoignages qui vous confirment aussi, confortent aussi dans l'idée de l'association ?
Alors, on a des résultats, toujours pareil, on est un des éléments des parcours de vie des personnes, on n'est pas l'élément qui fait que je viens en séjour, demain j'ai un hébergement, demain j'ai un travail ou demain j'ai des papiers. Mais on fait partie de ça. On est aussi à un moment donné mobilisateur de se dire « bah oui, j'ai réussi à tenir le séjour, à être à l'heure au rendez-vous, à faire. » Donc j'ai envie de refaire des choses, j'ai envie de sortir de là et de me remettre en action. On a aussi un gros enjeu pour les structures, c'est que, comme je vous l'ai dit, sur tous nos séjours, on va avoir des travailleurs sociaux issus de la structure qui nous accompagnent. Donc il y a un lien qui est créé aussi entre le participant, entre l'usager des structures sociales et le travailleur social, qui est complètement différent de quand on est dans un bureau. Il est bien évident qu'on ne parle pas de la même chose quand on est face à face chacun d'un bureau avec une posture ou quand on est en train de se balader le mardi soir au bord de la mer et qu'on est côte à côte. Forcément, les enjeux sont différents, la confiance et le lien se créent. Donc derrière, le travail va se faire. Mais effectivement, on a des belles réussites, on a des personnes qui sont sorties de la rue. On a une personne, pour faire le lien avec le foot, on avait monté un partenariat en 2017 où on a pu proposer à 3 personnes issues de nos séjours de devenir arbitres de foot, qui ont suivi la formation dans le district du 92 et qui sont devenus par la suite arbitres de foot. Alors ça a duré le temps que ça a duré parce que la vie de chacun est ce qu'elle est. Mais voilà, des vrais effets derrière, des vraies actions concrètes qui se mettent en mouvement suite à ce qu'on peut proposer. Oui.
L'association est présentement en Île-de-France. Est-ce que vous essayez d'aller un peu plus loin qu'en Île-de-France, vous développez en France tout simplement ?
Alors on le fait, oui et non. Il faut quand même avoir bien en tête qu'une grande majorité des personnes en situation de précarité, de grande précarité, se situent en Île-de-France. C'est là où est concentré le plus de monde.
C'est une réalité.
Après, ouais. C'est une réalité de terrain. Après, nous, c'est aussi d'arriver à faire découvrir la France à travers nos séjours. Donc peut-être aussi de donner l'envie à certaines de partir. Pourquoi pas demain de se construire. Après, nous, on a quand même ce principe de se dire... Attendons de faire les choses vraiment bien, vraiment structurées. Il y a beaucoup de choses à faire déjà par ici. Se développer, ben, il ne faudrait pas que ça nuise à nos actions et à nos participants ici. Donc on le fait vraiment par étapes. Mais dans un avenir plus lointain, ça pourrait être effectivement une envie.
Mathieu, même question pour Tatane, qui est une association présente en Île-de-France actuellement.
Oui. On est principalement en Île-de-France, on n'est pas du tout contre d'aller visiter un peu la province. On a eu des expériences au Havre, à Grenoble, à Lyon, je pense aussi qu'on est déjà venu, voilà, sur des projets un peu plus one shot, mais on a eu des tournois de baby à Grenoble, on a participé à l'inauguration d'un lieu culturel au Havre, le Tetris de mémoire. Voilà, donc on est parisien, mais on aimerait et je pense que dans le futur on pourra aller voir un petit peu nos amis provinciaux. J'espère, je rêve d'une antenne de Tatane à Toulouse.
Oui. Si on revient sur l'essence même du football, c'est quand même de marquer des buts, donc c'est de gagner finalement. Il y a un esprit de compétition qu'on connaît forcément avec la Ligue des Champions, avec tous les championnats qui existent ici et là en France ou même à l'étranger. Comment est-ce que, Mathieu Pradel, vous vous en sortez pour, avec tous les jeunes que vous rencontrez, leur dire bah, « Ouais, le foot, c'est de la compétition, mais c'est pas que ça finalement. »
Alors. Je vais répondre à votre question, mais juste avant, j'aimerais, parce que Vikash Dorasso, s'il m'écoute...
J'espère.
voudrait que je le dise. Détrompez-vous, le foot est le seul sport, justement, où on n'est pas obligé de jouer. C'est le sport, et là, je reprends ces mots, c'est ce sport qui peut finir à 0-0, c'est ce sport où on n'est pas obligé d'attaquer, c'est ce sport où on peut, finalement... On peut être sur le terrain de plein de manières différentes, en fait, et je crois quand même qu'il est assez unique de ce point de vue-là. Mais un de nos premiers outils, ça a été cette idée des changements de règles. C'est-à-dire que quand on s'est posé la question de comment faire pratiquer un jeune et décaler un petit peu cet objectif ultra compétitif ou trop compétitif, on a eu cette idée d'inventer des règles. Alors ça peut être des règles qui ont vocation à être drôles, comme jouer les mains dans les poches, ça peut être des règles qui ont vocation à être plus techniques ou tactiques, c'est-à-dire par exemple faire que tous les joueurs aient dépassé la moitié du terrain pour pouvoir marquer un but, ou marquer uniquement du mauvais pied, marquer uniquement en reprise de volée. On a tout un tas de petites règles comme ça qui permettent soit de rééquilibrer les niveaux. Les plus jeunes peuvent avoir droit à autant de touches de balle qu'ils veulent, et les plus âgés simplement 3 touches de balle. Comme je disais, des règles très fun, ou alors des règles aussi pour déconstruire cette idée de l'opposition. Alors souvent on leur donne des noms rigolos. La règle mercato, c'est que quand je marque un but, j'échange mon maillot avec un joueur de l'équipe adverse, donc je passe dans l'équipe adverse. À cette semaine, au gymnase, quasiment tous les buts doivent être célébrés par une célébration collective, sinon le but ne compte pas. Ça, c'est un grand classique aussi de nos animateurs et de nos éducateurs, c'est de dire célébration collective, sinon le but ne compte pas. Donc voilà, on essaye d'avoir des petites idées comme ça et mettre aussi les pratiquants dans une posture de création. Donc voilà, c'est des jeunes qui nous ont inventé la règle de la garde à vue où on joue avec les mains derrière la tête ou la règle Jamel où on doit jouer avec une main dans la poche. Voilà, j'espère que ça le fera sourire si un jour il nous entend. Mais
ça a été un
moyen de relativiser l'enjeu de la victoire et de la défaite, et ça fonctionne plutôt bien.
C'est quoi l'objectif derrière tout cela, Mathieu Pradel ? C'est d'éduquer ces jeunes, ou en tout cas d'essayer de leur inculquer des vraies valeurs, des valeurs sociales, de citoyenneté aussi ?
Oui, même là, bon, c'est un peu des grands mots, avoir la prétention d'éduquer. Non, l'idée, c'est d'être plutôt de fédérer, de transmettre effectivement des valeurs positives, des valeurs bienveillantes, d'être plus dans le dépassement de soi que dans l'idée de vouloir gagner à tout prix. C'est créer du lien social, voilà, c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, c'est jouer au sens premier, c'est-à-dire qu'on oublie parfois que nos sports sont des jeux, et donc ne pas penser forcément au classement ou au résultat quand on est sur le terrain. C'est les beaux gestes, c'est prendre du plaisir à Elisabeth tout à l'heure nous disait qu'elle était devenue attaquante et qu'elle avait ce plaisir de taper maintenant quand elle croisait un pignon de pain. Ouais. Donc voilà, c'est le geste, c'est le plaisir, c'est plein de choses en fait. Je crois que chaque joueur vit tout ça de manière unique et personnelle.
Aubin Perdriol, on se souvient du Covid, du confinement. Pour les personnes en situation de précarité, on a fait beaucoup d'émissions autour du sujet. Ça a été un vrai carton rouge dans leur vie. Ça a été aussi un constat de votre côté pour l'association Un Ballon pour l'Insertion. Comment vous avez fait, vous, pour peut-être maintenir les séjours que vous proposez ?
Ça a été effectivement très très compliqué puisque autant tout un tas de personnes, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, tout un tas de personnes avaient le droit de pratiquer le sport. Les personnes en situation de grande précarité, que nous on considère avec un certain handicap social, une forme de handicap social, n'avaient pas le droit de pratiquer. Donc on a vraiment perdu un lien fort qu'on avait créé avec eux. Des personnes qui venaient chaque semaine qui ne viennent plus, des personnes qu'on a retrouvées effectivement dans des états très déplorables suite au Covid. On a essayé de maintenir, on a essayé de se renouveler, de créer des nouvelles formes puisqu'on a créé un nouveau format qu'on a appelé les 6 jours où du coup on était sur une journée d'activité par semaine pendant 6 jours mais qui était sans hébergement avec une restauration très limitée pour respecter les contraintes sanitaires. On a profité des espaces publics aussi, puisqu'en fait, il n'y avait pas forcément besoin d'avoir de passe sanitaire à ce moment-là pour pouvoir pratiquer. Mais ça a été effectivement une très grande difficulté pour nos publics. On a maintenu autant qu'on a pu et on a vu tous les bienfaits de pouvoir reprendre rapidement une activité à peu près normale.
On arrive presque à la fin de cette émission, Mathieu et Aubin. On va retrouver tout de suite notre chroniqueuse qui va nous faire imaginer une photo tout de suite. Et on retrouve Stéphanie Gallet pour la rubrique Jeudi Photo. Rebonjour Stéphanie.
Rebonjour, je voulais vous la faire les mains derrière la tête, mais même la radio sans les mains, c'est compliqué.
On va lancer un défi aux auditeurs, c'est de fermer les yeux tout de suite, puisque chaque jeudi, une photo sélectionnée par le CCFD Terre Solidaire nous accompagne. Vous nous racontez cette photo, alors on ferme les yeux tout de suite. Et la photo du jour, c'est le portrait d'une femme, Stéphanie.
Oui, pour moi, c'est vraiment un portrait comme on les aime. Un sourire magnifique, rayonnant, éclatant. Pas un truc qui minaude, où on cache ses dents. Non, un sourire généreux qui donne tout.
Racontez-nous, parce que là, on voit pas grand-chose.
Oui, c'est vrai, je m'emballe. Donc, c'est un portrait, mais en format paysage. On est très proche de la femme. Elle est photographiée en plan très serré. De son corps, on ne voit que le haut de ses épaules. C'est une femme à la peau très foncée. Ce n'est plus une jeune femme. Elle a de très jolies ridules au coin des yeux. pas de maquillage, hein, elle est tout à fait nature. Elle est adossée contre un arbre, devant un vieux papier peint qui se décolle. Elle a le visage légèrement tourné vers notre droite et elle regarde un peu au-dessus de nous. Alors il faut aussi que je vous parle des couleurs qui encadrent son visage. Ce sont des couleurs complémentaires, hein. Derrière elle se trouve une sorte de sac avec des rayures multicolores. Il y a du bleu clair, du jaune pâle et du orange. Le bleu clair, on le retrouve sur son gilet, mais aussi sur le papier peint qui fait comme un fond à la photo. Les tons orange et ocre sont aussi ceux de son foulard qu'elle porte en turban sur sa tête et aussi de la lanière qu'elle a à l'épaule. Et puis le jaune est celui de son t-shirt.
Alors qui est cette femme et pourquoi le CCFD Terre Solidaire veut-il que nous regardions d'un peu plus près cette photo ?
Eh bien, nous sommes au marché de Glénau, dans la province d'Hermera, au Timor-Leste, un pays marqué par 25 années d'occupation indonésienne. Et c'est vrai que ce sourire très communicatif, hein, photographié par le journaliste Patrick Pirot, pourrait nous faire oublier la situation très difficile que vit cette région.
Ouais, d'ailleurs, que s'est-il passé au Timor depuis son indépendance en 2002 ?
C'est exaltant, Melchior, une indépendance, hein, mais ça n'est jamais simple. Ainsi, de nombreuses personnes qui s'étaient exilées vont revenir chez elles et elles retrouvent leurs terres occupées par d'autres. Alors les tensions vont se multiplier et menacer la paix sociale. Les communautés de la province d'Hermera, là où est prise cette photo, hein, sont particulièrement touchées par ces conflits fonciers car leur région est connue pour la richesse de ses plantations de café.
J'ai l'impression que le sourire de cette femme, Stéphanie, c'est la preuve qu'une solution pour résoudre ces conflits autour des titres de propriété a été vraiment trouvée.
Eh bien, vous voyez juste, Melchior, c'est une très belle solution qui puise dans la culture locale. Il s'agit du Tarabandu, un code social très très ancien qui vise à régler à l'aimable les conflits communautaires et fonciers. Il veille aussi à l'amélioration du bien-être des populations et à la gestion durable des ressources naturelles. Ce recours à cette méthode traditionnelle a pu réussir car ses promoteurs se sont appuyés sur l'ensemble des acteurs locaux, les communautés, les chefs de village, la police et même l'église, très importante, excusez-moi, dans cette région à majorité catholique. Alors ensemble, ils ont trouvé un terrain d'entente et ont défini un nouveau contrat social qui prend en compte les spécificités locales. Alors ce Tarabandu des temps modernes a permis d'apaiser les tensions et de préserver les coutumes. Et c'est tout ça que nous dit ce sourire.
Et pour en savoir plus sur la situation au Timor-Leste, direction le site du CCFD Terre Solidaire. Et là, vous pouvez rouvrir les yeux et vous allez pouvoir découvrir ce sourire signé Patrick Pirot à la rubrique Jeudi Photo et c'est sur notre site rcf.fr. Merci beaucoup à Stéphanie Gallet. Merci également à vous deux, Mathieu Pradel et Aubin Perdriol, pour ces associations que vous nous avez présentées ce matin. Oui.
Est-ce que je peux me permettre un dernier
Alors,
mot?
Très très rapidement, Mathieu, s'il
Allez.
Vous plaît.
Mon cœur est un ballon, le podcast que nous lançons avec Tatane sur vous écouterez, c'est super.
Mon cœur est un ballon. Merci Exactement. Beaucoup Mathieu et pour l'association Tatane, rendez-vous tatane.fr et Aubin Perdriol pour un ballon sur l'insertion, c'est sur le site unballonpourlinsertion.org tout simplement. Merci à Pierre-Henri, Hugo, Catherine et Jeanne qui ont permis la réalisation de cette émission. On se retrouve demain pour finir la semaine avec le Presse Club et puis votre émission de jardinage préférée, j'espère. Prenez-en de la graine. Bonne journée à tous.